France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
La Russie est de retour, crie la foule. 100 000 personnes sur la place Rouge et Vladimir Poutine qui arrive comme un empereur romain au soir d'un triomphe militaire. Le temps de chanter l'hymne russe et l'homme fort du Kremlin se retire, plus déterminé que jamais.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Pour interpréter les affrontements sanglants que connaît la planète, la profondeur de champ est indispensable. Nous allons nous enquérir ce matin des sources et des précédents de cet impérialisme russe qui déploie aujourd'hui sans vergogne, au premier chef en Ukraine, mais pas seulement, ses certitudes, ses mensonges et ses crimes. Non sans que le régime de Vladimir Poutine s'interdise d'ailleurs lui-même d'aller chercher dans une histoire de longue durée, nostalgique et fantasmée, une justification pour ses actions contemporaine. L'impérialisme russe a connu, au fil des siècles, des avatars divers. Mais ces constantes sont fascinantes, comme le montre mon invitée Sabine Dulin, professeure des universités à Sciences Po, spécialiste éminente du monde russe et de l'Europe orientale. Toute son œuvre est parcourue par une interrogation sur cette permanence par-delà le foisonnement de l'histoire. Elle vient de résumer ses convictions dans un essai qui paraît sous le titre « Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie » en s'appuyant sur une anthologie de textes impressionnants. Aux yeux de mon invité, Poutine, qui est au pouvoir depuis 25 ans, incarne parfaitement une rencontre pluriséculaire entre un despotisme revendiqué et une défense, drapée elle-même dans un faux anti-impérialisme, de l'existence même de la Russie, qui serait menacé dans son être. Pour Sabine Dulin, il ne fait pas de doute qu'un régime pluraliste et ouvert ne peut émerger durablement tant que les Russes eux-mêmes ne tourneront pas le dos à cette identité impérialiste qui a toujours justifié à l'intérieur l'absolutisme, l'autocratie, la dictature du prolétariat et aujourd'hui, la formule est nouvelle, la verticale du pouvoir. Sous des dénominations diverses, une impitoyable pérennité. Voilà ce dont nous allons débattre. Et d'abord le propos de Custine, Astolphe de Custine, dans son fameux ouvrage « La Russie » en 1839.
Si l'ambition désordonnée dessèche le cœur de l'homme, elle peut bien aussi tarir la pensée, égarer le jugement d'une nation au point de lui faire sacrifier sa liberté à la victoire. Sans cette arrière-pensée, avouée ou non, et à laquelle bien des hommes obéissent peut-être à leur insu, l'histoire de Russie me paraîtrait une énigme inexplicable. Ici s'élève une question capitale. La pensée conquérante, qui est la vie secrète de la Russie, est-elle un leurre propre à séduire plus ou moins longtemps des populations grossières, ou bien doit-elle un jour se réaliser ?
Sabine Dulin, bonjour.
Bonjour.
Cet extrait de Custine, livre fameux, publié en 1843, était lu ici par Jean-Pierre Leroux dans Les Lundis de l'Histoire de Philippe Le Villain sur France Culture, le 9 novembre 1992. L'extrait est court, mais il me paraît ramasser assez bien le fond de votre pensée, la ligne directe de votre étude de cette histoire longue.
Oui, tout à fait. Custine, en fait, là, évoque ce lien très spécifique entre despotisme et, et conquête, et donc empire et impérialisme, l'idée finalement que la victoire, la conquête sont, disons, intrinsèques à l'histoire de la Russie et que cette volonté de conquête justifierait finalement le renoncement à toute possible liberté et toute possible responsabilité pour la société russe.
Le contraire pouvant d'ailleurs être vrai. C'est un lien intime entre ces deux idées.
Oui, alors on peut dire qu'ailleurs, ça se passe autrement, puisque si on pense à l'impérialisme, je ne sais pas, en France, l'impérialisme colonial est un impérialisme qui n'empêche pas la France d'être démocratique.
Non, c'est bien cette originalité-là, russe, que nous allons considérer ce matin.
Tout à fait.
Vous prenez en compte, naturellement, bonne historienne, je le disais, le très long terme, il faut revenir en arrière, aux origines de cette nation russe qui s'affirme comme telle, et ça nous ramène plusieurs siècles en arrière.
Oui, alors finalement, ce qui était au départ ce qu'on appelle la Moscovie, commence par effectivement conquérir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de la conquête. Alors face d'abord à, il y avait l'Empire mongol qui était présent sur l'ensemble des terres qui vont devenir les terres impériales russes. Donc la Moscovie est à l'époque un vassal du grand Khan mongol. Hein. Donc c'est une principauté finalement à la périphérie de l'Empire mongol. Hein. C'est ça qu'est la Russie au départ. Et donc le renversement, c'est le moment où effectivement les princes de Moscovie vont se mettre à conquérir. Et donc finalement l'affirmation de la Russie comme puissance dans la région passe d'abord par cette conquête qui dure tous les 16e, 17e siècles.
Ivan III, qui a régné de 1462 à 1505, est le premier à adopter le titre de tsar. C'était une manière de se nommer dans les échanges diplomatiques avec le Grand Khan et avec Byzance. C'est la filiation de Byzance qui a probablement dominé au début.
Oui, effectivement, l'ensemble des formes liées à la Russie, au couronnement, et donc à cette à ce tsar qui devient le roi de la Moscovie puis de la Russie, eh bien tout ça est relié à l'idée qu'on est dans l'héritage de Byzance, donc Byzance qui est tombée, qui est prise par les Turcs.
Date essentielle de 1453.
Suite à cette chute de Byzance, d'une certaine manière, la Russie va se présenter comme l'héritière de cette Byzance. Et d'ailleurs, la couronne qui devient la couronne des tsars, le premier à être couronné, c'est Ivan le Terrible. Et Ivan le Terrible donc, a une couronne qui est une chapka, avec montée sur la fourrure une couronne d'or et de diamants en forme de poire. Et cette couronne assez spécifique, elle est considérée comme venant de Vladimir, grand prince de Kiev, qui lui-même était un descendant d'un des empereurs de Byzance. Donc il y a vraiment une volonté d'affirmer cette filiation et ceux qui vont écrire sur cette filiation, qui vont en faire en gros le récit officiel du tsarisme, c'est le clergé orthodoxe. Donc le clergé orthodoxe qui fait cette généalogie officielle de Byzance jusqu'à la Moscovie.
Nous aurons à retrouver ici ou là le rôle effectivement de la religion jusqu'aujourd'hui, jusqu'au soutien de l'orthodoxie à Moscou, apporté de façon ostensible à Poutine.
Oui, l'église orthodoxe est un élément central, évidemment, de cette construction du despotisme russe, de l'autocratie russe. C'est évidemment un élément essentiel qui est donc s'affirme dans la tradition de Byzance. Et cette histoire de Byzance est aussi très importante parce que c'est une manière aussi toujours de présenter un certain nombre de conquêtes russes comme des formes de restauration de quelque chose qui avait existé avant. Donc l'Empire byzantin, la Rousse de Kiev, donc il y a l'idée toujours d'une restauration alors qu'on est en train de conquérir des territoires.
Ivan III se donne à lui-même le titre d'autocrate, qui vient du grec autokrator, afin d'exprimer vraiment sa suprématie sur l'ensemble de ses suzerains. Vous citez dans votre ouvrage, Sabine Dulin, ce propos d'un ambassadeur étranger, Sigismund von Herberstein, qui écrit ceci au moment où règne le successeur de Ivan III, c'est-à-dire au début du XVIe siècle. Dans l'emprise que le tsar exerce sur son peuple, il surpasse tous les monarques du monde entier. Et il a mis à exécution le projet de son père d'expulser tous les princes et autres personnes des garnisons et des places fortes. Il n'accorde certainement aucune forteresse à ses cousins, ni même ne leur en confie la charge, mais les opprime presque tous en les confinant strictement. Rassemblement déjà autour d'une personne, aux dépens souvent même de la famille impériale.
Oui, alors ça frappe beaucoup effectivement Herbert Stein, qui est donc ambassadeur du Saint-Empire romain germanique. Et donc effectivement, c'est l'un des textes que je mets dans mon ouvrage, où il y a toute une partie des textes qui ont pu être, qui peuvent mettre en avant cette idée du despotisme et en lien avec l'Empire.
Précieuse anthologie, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, oui, effectivement.
Et en fait, Herbert Stein, ce qui le frappe vraiment, et c'est au fond sa manière de définir le despotisme en Russie, c'est le fait que la noblesse est totalement en fait assujettie au souverain. Et effectivement, dans les autres États d'Europe, la noblesse est relativement autonome, elle a sa propre capacité d'action et souvent fait contrepoids au souverain. Ce qui n'est pas du tout le cas en Russie dès cette période donc du XVIe siècle.
Le passage progressif d'un pouvoir à caractère byzantin au désir d'être une puissance européenne mérite aussi d'être considéré. Vous le faites dans votre ouvrage, Sabine Dulin.
Effectivement, petit à petit, la Russie va prendre pied en Europe. Ce qui est le plus visible, c'est évidemment la période de Pierre le Grand. Hein, Pierre le Grand qui va afficher très nettement sa volonté de faire advenir une Russie européenne, notamment avec la fondation de Saint-Pétersbourg, en 1703. Mais on peut dire que peut-être, avant Pierre le Grand déjà, notamment le tsar Alexis, avait commencé à européaniser la Russie, notamment parce que c'est au moment de Alexis qu'il va y avoir la conquête d'une partie de l'Ukraine actuelle, avec le ralliement en fait à Moscou de l'Hetmanat ukrainien, c'est-à-dire l'État des Cosaques. Et ce ralliement des Cosaques à Moscou entraîne en fait une influence de l'Ukraine sur la cour tout à fait impressionnante, c'est-à-dire que l'ensemble du clergé qui était à Kiev va arriver à Moscou et va finalement européaniser la religion orthodoxe, puisque c'est le moment des grandes réformes qui vont en fait européaniser l'orthodoxie, et c'est le début du schisme des vieux croyants. Donc la période d'Alexis est une période importante en termes d'européanisation culturelle par le biais du clergé de la cour à Moscou.
Ce rôle de Kiev est évidemment aujourd'hui important parce qu'évoqué par Poutine pour légitimer le caractère russe en fait de l'actuelle Ukraine. Vous évoquez Pierre le Grand. Il y a la fondation, effectivement, de Saint-Pétersbourg, qui à un moment donné était Leningrad, et qui est à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de la Finlande. Alors, je vais vous faire entendre un extrait d'un poème très fameux d'Alexandre Pouchkine, un poème de 1833, qui s'appelait « Le cavalier de bronze », et qui évoque la statue qui a été dressée là pour rappeler ce grand fait de la création de Saint-Pétersbourg. La statue de bronze, Sabine Dulin, dont il est question, « Le cavalier de bronze », une œuvre d'un Français, d'ailleurs.
Oui, c'est le sculpteur français Falconet qui a fait cette œuvre qui est évidemment emblématique aujourd'hui du paysage urbain de Saint-Pétersbourg. Donc un cheval qui se dresse comme ça avec Pierre le Grand, qui par ailleurs était très très grand, hein, il faisait presque 2 mètres, qui se dresse sur un rocher. Donc c'est effectivement cette statue qui inspire Pouchkine.
C'est un texte qui est lu ici par Daniel Sorano dans l'analyse spectra de l'Occident de Stanislas Fumet le 25 février 1961.
Sur le rivage des eaux désertiques, il se tenait debout, plein de pensées augustes, et regardait au loin. Devant lui, le large fleuve déferlait. Dans son sillage, un canot s'en allait solitaire. Sur les berges moussues et fangeuses se profilait une maisonnette, ça ou là, asile d'un humble Finlandais. Et la forêt, ignorée du soleil, perdue dans les brumes tout autour, murmurait et il songeait « Ici, nous nous dresserons, menaçant le Suédois. Ici sera fondée la ville, en défi à l'orgueilleux voisin. La nature elle-même nous invite à ouvrir ici une fenêtre sur l'Europe, à nous établir d'un pied ferme sur la mer. Ici, portés par les eaux nouvelles, les pavillons d'hiver accourront nous rendre visite. Et au grand air, nous ferons bombance. »
Les choses sont dites là, de façon littéraire, non, Sabine Dulin ?
Oui, bah c'est donc ce projet pharaonique hein, de Pierre le Grand de créer une ville donc à la frontière effectivement du royaume de Suède à l'époque, puisque la Finlande appartenait à la Suède. Et donc cette ville sur des marécages qui a entraîné d'ailleurs une construction dantesque avec énormément de morts, hein, puisque c'était une grande brutalité la construction de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand. Et donc il y a une volonté forte hein, qui est exprimée, la fenêtre sur l'Europe, la volonté d'européaniser la puissance russe qui jusque-là était tout à fait en périphérie de l'Europe. Donc ça, c'est le projet de Pierre le Grand qu'il va déployer dans les années qui suivent, puisqu'on va avoir la grande guerre contre la Suède. Et c'est à l'issue de cette guerre contre la Suède et des victoires russes dans cette guerre que Pierre le Grand annexe tout le littoral baltique à la Russie et que Pierre le Grand devient l'empereur de la Russie sur le modèle un peu des empereurs romains et donc s'affirme comme ça, comme une grande puissance en Europe.
Et après la mort de Pierre, c'est-à-dire en 1725, l'européanisation de la culture du pouvoir en Russie ne fait que s'accentuer. Cette européanisation n'est pas du tout incompatible avec une absolutisation du pouvoir qui se développe, un processus d'asservissement des paysans, plus marqué qu'auparavant encore, non ?
C'est tout le paradoxe de cette entrée de la Russie en Europe. D'abord, elle rentre en Europe parce qu'elle sait faire la guerre, en fait. C'est quand même en tant que puissance victorieuse qui sait faire la guerre que tout d'un coup la Russie devient importante sur la scène européenne. Et puis par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a une européanisation notamment de la cour hein, avec des impératrices particulièrement cultivées, bon, Catherine II qui parle couramment français et qui écrit en français. Il y a ça d'un côté, de l'autre, il y a un mouvement contraire du reste de l'Europe, puisque le reste de l'Europe est sorti du féodalisme, mais en Russie, au contraire, il va y avoir un asservissement des paysans qui a commencé avec le tsar Alexis, enfin bien avant le tsar Alexis, mais c'est le tsar Alexis qui a officialisé le servage.
À quelle date ?
Le servage, dans les années 1650. Il y a une officialisation du servage, mais qui existait déjà avant, puisque l'idée, c'est pour obtenir le service militaire de la noblesse, il faut lui attribuer des terres et sur ces terres, il faut, disons, asservir les paysans de manière à ce qu'il y ait une main-d'œuvre pour cultiver ces terres. Donc, il y a vraiment une paysannerie totalement asservie, au point d'ailleurs que une des thèses qui a été développée chez les historiens, c'est la thèse de la colonisation intérieure, c'est l'idée que finalement, l'État russe, pour assurer sa puissance et pour assurer le service de la noblesse, a besoin de coloniser de manière intérieure la paysannerie. En fait, a besoin d'asservir la paysannerie pour servir la puissance russe.
On est là au cœur de ce commerce qui anime votre réflexion entre servitude intérieure et impérialisme extérieur. Dès ce moment-là, et Catherine II incarne avec beaucoup de vigueur cela sous le regard mi-admiratif, mi-inquiet des encyclopédistes français, Voltaire et Diderot, premier chef, d'Alembert aussi.
Oui, alors Catherine II est une femme particulièrement intelligente. Donc elle a, d'un côté, c'est vraiment la tsarine qui va vraiment agrandir l'Empire russe, hein, puisque c'est la conquête de la Crimée face à l'Empire ottoman, c'est la conquête d'une partie de la Pologne, puisqu'il va y avoir le partage de la Pologne entre l'Empire austro-hongrois, la Prusse et la Russie. Donc Catherine II agrandit énormément le territoire, va être une tsarine qui fait réprimer très violemment les révoltes. Hein. Donc Catherine est vraiment une tsarine absolutiste. Mais en même temps, elle joue un peu avec cette idée des Lumières qui l'intéresse beaucoup, parce que c'est une femme intelligente qui aime lire la philosophie. Et elle devient effectivement une amie très proche de Voltaire et Diderot.
On a des textes d'admiration éperdue de Voltaire à l'égard de
Catherine. Alors Voltaire est très très admiratif de Catherine.
Même courtisan,
Diderot, lui, essaye, croit naïvement sans doute, qu'il peut influer sur l'évolution de Catherine. Donc il espère qu'elle va devenir quasiment un souverain constitutionnel, puisqu'elle organise effectivement à un moment donné, avec l'idée d'une instruction et d'une commission qui réunit l'ensemble des États et des peuples de son royaume, il y a la possibilité peut-être d'une constitution en Russie. Mais en fait, c'était quand même de la poudre aux yeux de la part de Catherine.
Elle est convaincue que le pouvoir absolu est pour elle le seul instrument susceptible, en fait, de gouverner l'immensité de la Russie, alors qu'elle peut recevoir cette lettre de Diderot. Un peu naïf quand on le considère rétrospectivement, qui lui dit « La première ligne d'un code bien fait doit lier le souverain, il doit commencer ainsi. Nous, peuple, et nous, souverains de ce peuple, jurons conjointement ces lois par lesquelles nous serons également jugés, et s'il nous arrivait à nous, souverains, de les changer ou de les enfreindre, ennemis de notre peuple, il est juste qu'ils soient déliés du serment de fidélité, qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous déposent, et même qu'il nous condamne à mort, si le cas l'exige. » On imagine que Catherine II a dû recevoir ces lignes avec un peu de distance, d'étonnement, de mépris.
Il y a même le dernier texte donc de Diderot a été volé par l'un des conseillers de Catherine. Et on l'a retrouvé ensuite dans la bibliothèque de l'impératrice à Saint-Pétersbourg. Donc en fait, certains des travaux de Diderot étaient inconnus à l'époque. Et notamment ces propos-là. Donc Diderot, effectivement, croit possible quelque chose. Alors, est-ce qu'il le croit vraiment ? Pas sûr. Hein. Sur la fin, je pense qu'il considérait que, effectivement, c'était...
Il a déchanté.
C'était mission impossible pour une impératrice comme Catherine II. Mais il n'empêche qu'il y a ce débat, et en tout cas, elle joue le jeu. Il y a quand même Diderot qui vient à Saint-Pétersbourg et... ils vont discuter ensemble sur plusieurs mois de ces questions de gouvernement à l'aide donc des lois. Hein. Donc il y a la volonté de faire des lois.
C'est un peu un miroir aux alouettes, de fait.
Oui, alors d'ailleurs, ensuite, au XIXe siècle, on évoque souvent Catherine II comme la Sémiramis du Nord, qui a un petit peu séduit l'ensemble des philosophes des Lumières et qui, en fait, a continué à être un souverain absolutiste pour la Russie, en donnant l'impression d'aller sur le terrain des Lumières.
Le XIXe siècle est probablement plus lucide à cet égard. Portons-nous donc vers cette période, le temps de Custine, que nous avons cité tout à l'heure, avec ses lettres de Russie 1843, et toute la réflexion multiforme et passionnante, vue d'Europe, de la spécificité russe.
Cette spécificité russe, en même temps, c'est le tsar lui-même, notamment Nicolas Ier, qui succède à Alexandre Ier, Alexandre Ier qui avait été le vainqueur de Napoléon. Donc Nicolas Ier qui décide de faire de l'absolutisme russe une sorte de trait national pour la Russie. Au XIXe siècle, tous les États cherchent à développer l'idée de leur nation, et en Russie, le trait de la nation russe va être justement ce lien très fort entre le souverain et le peuple, et le fait que le peuple est très éloigné de l'idée aussi bien de démocratie, de république, que même de contrat. Donc c'est l'absolutisme qui devient le trait caractéristique de la nation russe.
Nicolas Ier est très clair à cet égard. « Je ne conçois pas la monarchie représentative, c'est le gouvernement du mensonge, de la fraude, de la corruption, et j'aimerais mieux reculer jusqu'à la Chine » que l'adopter jamais. C'est vous qui citez ce texte, lui-même évoqué par Custine.
Voilà, c'est Custine qui dit ça. Alors, est-ce que l'empereur lui a vraiment dit ça ? Pas sûr, mais c'est Custine, oui, qui transcrit un entretien qu'il a eu avec l'empereur. Bon, ce qui est évident, c'est que Nicolas Ier affirme haut et fort sa détestation à la fois de la souveraineté populaire et de l'idée d'une limitation du pouvoir absolu, du pouvoir du monarque. Et il en fait donc le trait russe tout à fait spécifique en Europe. Nicolas Ier, qui donc affirme le caractère national de l'autocratie en Russie, devient aussi le gendarme de l'Europe, c'est-à-dire qu'il est celui qui va envoyer l'armée réprimer les différentes révoltes en faveur justement d'une constitution en faveur éventuellement de la République. Donc non seulement Nicolas Ier déjà réprime les officiers qui voulaient établir une constitution en Russie en 1825, mais ensuite il le fait aussi contre la Pologne qui revendique son indépendance en 1830, contre la Hongrie en 1849 qui essaye de développer un régime constitutionnel. Donc il y a une... En gros, la Russie, au milieu du 19e siècle, devient finalement le fer de lance de la monarchie absolue et du refus des évolutions constitutionnelles et républicaines.
Et d'une forme d'impérialisme, si le mot n'est pas anachronique, fondée sur une servitude du peuple à l'intérieur de lui-même.
Alors ça, c'est un autre aspect très important
qui
du
dessine,
19e siècle.
Qui se
c'est la conquête... La conquête, notamment vers l'Asie, vers le Caucase, donc la colonisation d'un espace immense eurasiatique en Russie même.
On peut parler d'une destinée manifeste, suivant la formule qu'on applique généralement aux États-Unis d'Amérique.
Alors ça, c'est tout ce qui se passe au 19e siècle, finalement, c'est de mettre des mots qui cachent les réalités. Donc, au fond, en Russie, on va parler de destinée manifeste comme aux États-Unis, dans l'idée qu'on colonise, en fait, un espace intérieur qui serait quasiment vide jusqu'au Pacifique. Donc les États-Unis font cela vers l'Ouest et les Russes font ça vers l'Est, jusqu'à Vladivostok. Mais cette conquête d'un espace qui leur serait presque dévolu par la sanction divine, c'est en fait évidemment une manière de nier l'existence de populations qui peuplaient ces différents territoires, ces populations qui vont être conquises par les armées de Cosaques russes.
Avec le rôle de la langue russe imposée très largement, et puis de la slavophilie, sur laquelle il faut s'attarder un instant, Sabine Dulin.
En fait, il y a énormément de mots qui sont un petit peu des mots qui dissimulent des réalités assez semblables à ce qui se passe ailleurs.
C'est donc, le principe quand on... du mensonge, hein. Pré-Aurélien.
De la dissimulation, on va dire. Ou en tout cas, d'une volonté de montrer quelque chose qui serait spécifiquement russe, alors qu'en fait... C'est la même chose que ce qui peut se passer ailleurs comme forme d'impérialisme, par exemple en France et en Angleterre. Donc la conquête de l'Asie centrale et du Caucase, c'est une conquête qui serait eurasiatique, ce serait donc le propre d'un mouvement spécifiquement russe, alors qu'en fait on est dans une colonisation qui ressemble beaucoup à celle de l'Algérie ou qui ressemble beaucoup à celle de l'Inde pour la Grande-Bretagne. De même, lorsqu'on parle de slavophilie, voilà, on défend une spécificité russe, un petit peu à la manière des Allemands et du Sonderweg.
Oui.
Donc une spécificité russe qui serait donc un trait national, alors qu'en fait il s'agit simplement de défendre l'autocratie.
Sonderweg en français.
Sonderweg, chemin spécifique. Voilà,
tout à fait. Avec déjà ce que l'on va voir comme argument au XXe siècle, nous vous apportons d'une certaine façon la liberté contre ceux qui vous oppriment. Pour vous opprimer de fait.
Oui, disons qu'on peut effectivement toujours présenter les choses sous un jour différent. Alors c'est comme le soutien, notamment le soutien à la fin du 19e siècle à l'ensemble des chrétiens, par exemple des Balkans. Donc on présente ça sous la forme du panslavisme, alors qu'on peut aussi considérer qu'il s'agit d'une conquête et d'un impérialisme. Mais on évoque le terme de panslavisme.
On protège les populations contre de méchants extérieurs et soi-même, on est un gentil libérateur tout en opprimant. On peut résumer ça comme ça ?
Voilà.
Eh bien, écoutez cet extrait d'un journal d'un écrivain de Dostoïevski, 1876, qui est lu ici par Claude Bergman dans « Documentaire du vendredi » de Roland Auguet, qui était consacré au panslavisme, diffusé sur France Culture le 5 juin 1981. On voit assez bien au travail le ressort que vous venez d'évoquer. Défense et illustration des Slaves recouvrant en fait un désir impérialiste.
Ces dons volontaires et ces souscriptions populaires pour les Slaves orthodoxes, ces contributions de vieux croyants dont les communautés envoient des détachements sanitaires, ces sacrifices consentis par des coopératives d'artisans prenant sur leurs dernières ressources, ou par des villages entiers sur résolution de l'Assemblée du Mir, ces oboles que des soldats et des matelots prélèvent sur leurs prêts, enfin ces Russes de toutes conditions qui s'en vont se battre pour leurs frères orthodoxes opprimés, verser pour eux leur sang. Oui, c'est quelque chose qui parle de soi-même et dont on ne peut pas dire que c'est passif. C'est quelque chose avec quoi on ne peut pas ne pas compter. Le mouvement a pris forme et on ne peut plus le contester. Des dames, des femmes du monde vont par les rues, un tronc en main, quêtant pour les frères slaves. Et le peuple regarde avec émotion et gravité ce spectacle nouveau pour lui. C'est donc que de nouveau tout le monde est réuni. C'est donc qu'on n'est pas toujours séparés. C'est donc que nous aussi on est des chrétiens tout comme eux. Voilà ce qu'éprouve nécessairement le peuple. Et les nouvelles ne manquent pas de venir jusqu'à lui. Il entend ce que disent les journaux. Il commence déjà à les lire lui-même.
Voilà qui reflète bien la politique slavophile que vous évoquez il y a un instant, Sabine Dulin.
Oui, et la dimension panslave. Donc, effectivement, il y a d'abord le rôle très important de l'Église orthodoxe, comme on le voit dans ce qu'évoque Dostoïevski, qui là, en fait, est journaliste, hein, fait œuvre de journaliste dans le cadre du... Donc, il écrit dans les journaux et ça deviendra le journal d'un écrivain. Et il montre bien la mobilisation de la société en faveur, donc, des volontaires qui partent vers les Balkans pour soutenir les petits frères slaves en lutte contre l'Empire ottoman. Donc, cette idée, à la fois qu'il existe une identité slavophile, donc... anti-occidental, hein, puisque la slavophilie s'oppose à l'occidentalisme, c'est l'idée qu'il y a un destin spécifique slave.
Je vous protège, donc je vous domine.
Qui n'aurait rien à voir avec ce qui se passe en Occident, et par ailleurs avec une dimension extérieure, puisque la slavophilie, c'est aussi le panslavisme, donc l'idée qu'on va aller libérer des populations chrétiennes orthodoxes, ceux qu'on appelait les chrétiens d'Orient à l'époque, qui sont à l'extérieur de l'Empire russe. Alors, bien évidemment que le panslavisme arrive à mobiliser une partie de la société, notamment des élites, qui considèrent que c'est une cause noble. Et Dostoïevski est complètement en accord avec avec ce panslavisme. Dans les faits, c'est un impérialisme qui se dissimule sous cette idéologie, puisque au même moment, lorsqu'il y aura la guerre contre les Turcs, on va aussi annexer Kars et Ardahan, qui sont absolument pas, qui n'ont rien d'orthodoxe, qui sont des anciens territoires turcs. Donc il y a une volonté de conquête, et notamment la conquête de Constantinople, hein, qui est vraiment l'horizon de ce panslavisme, hein, la conquête de Constantinople, et donc le retour à cette idée d'une restauration de la Grande Byzance. Hein. Donc on est toujours dans cette idée-là.
Vous braquez l'attention dans votre livre, Sabine Dulin, sur un certain nombre d'auteurs, et je voudrais que nous attardions un instant sur le regard de Karl Marx, parce qu'il peut être éventuellement surprenant, avec le recul, la manière dont le marxisme s'est incarné en Russie révolutionnaire.
Karl Marx, je dois dire qu'il est extraordinairement actuel. Quand on lit ce qu'il évoque, donc, notamment à propos de la Pologne, puisque Karl Marx, qui a toujours été un fervent défenseur, hein, de la liberté de la Pologne face à l'Empire russe, donc qui prend fait et cause pour les révoltés en Pologne à la fois en 1830 et en 1863, eh bien... cette idée que tant que la Pologne ne sera pas indépendante, la classe ouvrière ne pourra pas être libre en Europe, c'est évidemment quelque chose de très frappant aujourd'hui, hein, quand on pense à l'Ukraine, hein, et donc l'idée que tant que l'Ukraine ne sera pas indépendante, l'Europe ne pourra pas être libre. On a vraiment quelque chose d'assez fascinant à relire aujourd'hui Marx, et ça souligne aussi à quel point les marxistes étaient aussi très très conscients de l'importance du sentiment national et du rôle qu'avait ce sentiment national dans l'émancipation générale.
Les méthodes, les tactiques, les manœuvres de la Russie peuvent changer, mais l'étoile qui guide sa politique est une étoile fixe, la domination du monde. Karl Marx. Il ne reste à l'Europe qu'une seule alternative, soit elle laisse la barbarie asiatique sous domination moscovite déferler sur elle comme une avalanche, soit elle rétablit l'intégrité de la Pologne, plaçant ainsi entre elle-même et l'Asie un rempart de 20 millions de héros et gagnant un répit qui lui permettra d'accomplir sa régénération sociale. Aujourd'hui, ce texte est particulièrement intéressant à relire, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Alors avec évidemment la vision très orientaliste aussi, partagée par beaucoup de contemporains de l'époque sur ce que c'était que la Russie, qui était barbare, asiatique, etc. Bon, on n'utiliserait peut-être pas ces termes exactement aujourd'hui, mais sur l'idée d'un rempart et d'une menace russe sur le système politique européen, je pense qu'effectivement, on a beaucoup de correspondances entre ce qui se passe au XIXe siècle avec cette Russie contre-révolutionnaire, conservatrice à l'époque, et qui va contre l'ensemble de l'émancipation des peuples et des classes sociales en Europe. Et aujourd'hui, où on a quand même une sorte de raz-de-marée du conservatisme en Europe, avec une influence très forte de la Russie derrière. Et évidemment, la question de la guerre en Ukraine est une sorte de rempart que pourrait être l'Ukraine face à cet autoritarisme russe et à ce conservatisme russe.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il faut, Sabine Dulin, à présent que nous nous attachions un moment à ce tournant essentiel qui est évidemment la révolution de 1917, qui est travaillée par deux tendances contradictoires, c'est-à-dire la liberté des peuples et d'autre part le désir sous l'apparence de cette liberté octroyée de quelque chose comme une nouvelle domination du centre, domination de l'impérialisme russe. Je voudrais que vous vous y attardiez un instant et que vous nous dédiez à démêler tout cela.
Oui, alors c'est évidemment un moment à la fois passionnant et complexe. Alors ce qui est frappant quand même, c'est de, là dans la lignée d'ailleurs de ce qu'a pu écrire Marx, hein, c'est de voir à quel point Lénine, qui est donc le chef de la révolution russe après octobre 1917, est conscient de la question nationale. Et il y a des textes de Lénine au début des années 20 qui ont une dimension postcoloniale assez impressionnante, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les Russes aient conscience de leur domination, qu'ils réussissent à faire advenir une égalité entre les nations, à même créer de la discrimination positive en faveur des anciennes nations dominées, et bref, qu'il y ait véritablement une sorte de culpabilité russe qui soit énoncée hein, face aux autres peuples. Donc ce sont des textes assez intéressants. En même temps, tout ça ne débouche sur, c'est vrai, une politique des nationalités et la création d'une fédération tout à fait particulière. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait combien Poutine critique Lénine là-dessus. Hein. Et c'est d'ailleurs un des motifs du discours de Poutine juste avant le début de son invasion en février 2022. Poutine explique à quel point Lénine a posé une bombe sous la Maison Russie en créant une fédération de peuples égaux et notamment en mettant les Ukrainiens juste à égalité avec les Russes, au lieu de les intégrer à l'intérieur d'une Russie qui aurait été dominée par Moscou. Donc il y a véritablement une volonté de déconstruire l'Empire à l'époque donc des premières années qui suivent la Révolution russe, mais qui n'aboutit pas.
On sent vraiment au travail, dans cette période essentielle qui va de 1917 à 1922, l'accession du bolchevisme qui opprime les socio-révolutionnaires, les mencheviks, etc., et qui fait triompher la dictature du prolétariat, cette période qui va jusqu'à la prise du pouvoir de fait par Staline, beaucoup de mouvements sont au travail qui éclairent encore aujourd'hui, Sabine Dulin, notre actualité.
Oui, alors c'est quand même une période de nombreux débats où il y a une vraie discussion, même si elle est déjà évidemment biaisée par la Terreur rouge, par l'existence de la police politique, la Tchéka, et le fait que l'absolutisme, disons, communiste est en train de se mettre en place dans la Russie de Lénine. Ça n'empêche pas qu'il y a un débat, notamment parmi les révolutionnaires, entre différentes options. Alors on voit à quel point déjà sur la question de la place des nations au sein de l'entreprise révolutionnaire, il y a des différences entre Lénine et Rosa Luxembourg, par exemple.
Rosa Luxembourg estime qu'il faut dépasser le fait national.
Alors Rosa Luxembourg, elle est anti-ukrainienne, anti-polonaise, anti, elle refuse qu'on laisse la moindre possibilité d'expression au sentiment national, parce qu'elle considère que ce serait aller contre l'internationalisme ouvrier et l'idée de, au contraire, de réunir les peuples au lieu de les diviser. Donc elle ne comprend pas du tout la politique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de Lénine et sa volonté de laisser une Pologne indépendante, sa volonté de laisser l'Ukraine s'exprimer sur un plan politique, etc. Donc c'est intéressant de voir le débat entre Lénine et Rosa Luxembourg sur cet aspect. Et puis on a bien sûr aussi les critiques, là, sur le plan de l'absolutisme communiste, les critiques des anarchistes, qui sont très intéressantes.
Un peu dans la ligne du français Élisée Reclus.
Oui, Élisée Reclus, où il y a Emma Goldman aussi. Emma Goldman, par exemple, qui visite la Russie en 1920. 1921, et qui, évidemment, est très déçue de ce qu'elle voit, notamment sur l'impossibilité pour les ouvriers de s'exprimer véritablement. Donc elle devient très critique, hein, elle dénonce l'absolutisme en Russie, le despotisme.
Le texte que vous donnez d'elle, vous l'avez titré « Il n'y a pas de communisme en URSS 1935 ».
Voilà, donc elle va continuer ensuite à critiquer la Russie. Mais en interne, on a aussi des gens comme Alexandra Kollontai qui sont très critiques au début des années 20 sur la manière dont le pouvoir se centralise, empêche le débat et la manière dont, finalement, la démocratie ouvrière disparaît.
C'est une personnalité fort intéressante, Alexandra Kollontai, qui a été maintenant assez largement étudiée.
Oui, tout à fait, parce qu'elle a aussi cette dimension très de féministe. Hein. C'est une des penseurs du féminisme marxiste.
Ambassadrice.
Et elle a été ensuite ambassadrice. Mais c'est vrai qu'au tout début des années 20, elle est la chef de l'opposition ouvrière qui tente de faire revivre, redynamiser une sorte de démocratie soviétique et ouvrière face à ce qu'elle appelle l'absolutisme des commissaires. Donc les commissaires, c'était les ministres bolcheviques qui dirigeaient le gouvernement.
Une fois le pouvoir de Staline affirmé, Sabine Dulin, très clairement, le principe triomphe, c'est-à-dire autoritarisme à l'intérieur, impérialisme à l'extérieur, sans véritable mise en cause de cette relation évidente.
Oui, les choses qui avaient les lignes qui avaient bougé à l'époque de Lénine
se
figent de nouveau. Et on a de nouveau cette association étroite entre l'autocratie, le despotisme à l'intérieur et l'impérialisme rouge, certes, mais l'impérialisme quand même à l'extérieur. Dans le sens où l'Empire revient dans les pratiques, dans les politiques, et le centre reste dominant. Et au bout du compte, avec l'arrivée de Staline, on a un retour de l'impérialisme à la fois interne et externe, même si dorénavant c'est un impérialisme rouge. Mais sur le fond, on est toujours dans de l'impérialisme, sauf que c'est un empire anti-impérialiste, dans le sens où on garde cette idéologie de départ de Lénine et cette volonté de sortir de l'empire qui va devenir véritablement un mot d'ordre dans l'Union soviétique.
L'opposition entre les propos de Lénine déjà en 1914 en exil et ensuite et les comportements de Staline sont particulièrement frappants quand on vous suit, Sabine Dulin. Lénine défend très largement, contre la centralisation de la monarchie tsariste, l'autonomie des peuples, en particulier de la Pologne, qu'il défend. Et ensuite, Staline va remiser tout cela.
Oui, Staline, au fond, reconstruit, reconquiert. Alors, il y a déjà eu, hein, quand même, pendant la guerre civile, donc juste après la Révolution russe, il y a quand même eu une reconquête d'une grande partie de l'ancien empire russe.
Au moment où un certain nombre de pays avaient quasiment acquis leur indépendance.
Oui, donc la Géorgie, l'Ukraine, qui sont réintégrées, mais sous la forme d'une fédération, hein, dans le cadre de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En revanche, certains restent indépendants, comme la Pologne, la Finlande et les États baltes, qui vont devenir des pays indépendants dans l'entre-deux-guerres. Et c'est là où Staline, effectivement, fait de l'impérialisme rouge, notamment dans le cadre du pacte germano-soviétique en 1939, lorsque l'armée rouge reconquiert une partie de la Pologne, les États baltes, donc dans une logique de nouveau de restauration d'une grande puissance impériale.
Donc on retrouve cette constante, c'est-à-dire nous sommes contre l'impérialisme bourgeois, mais nous allons protéger contre lui les peuples qui nous entourent, et en les protégeant, nous les opprimons. On peut résumer les choses comme ça ?
Oui, alors là, il y a vraiment ce discours, effectivement, qui est très présent et qu'on retrouve aujourd'hui dans la Russie poutinienne. C'est l'idée qu'on libère. Si on prend le moment du pacte germano-soviétique et de la Pologne orientale, qu'est-ce qui se passe ? Le discours officiel, lorsque l'armée rouge envahit la Pologne orientale, c'est que nous sommes en train de libérer les Ukrainiens et les Biélorusses de la domination polonaise. Nous libérons à la fois des peuples, les Ukrainiens et les Biélorusses, et nous libérons en même temps des classes sociales, les paysans, contre les propriétaires fonciers polonais. Donc il y a ce discours toujours de libération, et en même temps, en fait, il s'agit d'une annexion et d'une domination de ces espaces. Et très souvent, il y a l'idée d'intervenir sur invitation. Donc il y a toujours... On est toujours invité à intervenir, hein, donc les opprimés qui nous demandent d'intervenir pour aller contre les oppresseurs. Et là, donc ça, c'est vraiment un discours qui revient dans l'ensemble des annexions, qu'elles soient à l'époque soviétique ou aujourd'hui russe, puisque aujourd'hui, je veux dire, l'intervention en Ukraine, c'était au nom du soutien des populations russophones de l'est de l'Ukraine et d'un certain nombre de gens qui auraient demandé aux Russes d'intervenir pour les aider contre le gouvernement ukrainien.
On est au temps de la verticale du pouvoir et non plus de la dictature du prolétariat, mais c'est exactement ce qui se passe en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie, où les soviétiques viennent opprimer un mouvement de liberté en affirmant que ce sont des méchants organisateurs de la révolte qui vont entraîner le peuple sur des pistes détestables et qu'on vient les en protéger. Alors, pour rappel, cet extrait d'Interactualité sur l'invasion de la Tchécoslovaquie par les membres du pacte de Varsovie, le pacte de Varsovie qui organisait la solidarité sous l'autorité de Moscou des peuples qu'il dominait, sur France Inter, le 21 août 1968.
La pression militaire des forces d'occupation se resserre sur la Tchécoslovaquie.
Tito et Ceausescu condamnent violemment l'intervention des forces du pacte de Varsovie.
Toutes les capitales occidentales condamnent aussi l'intervention en Tchécoslovaquie. Le général Svoboda, président de la République, aurait été arrêté. À Prague et dans le monde, c'est la colère et l'étonnement.
Depuis ce matin, en effet, les dirigeants tchécoslovaques se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Monsieur Dubček, le chef du Parti communiste, est enfermé dans l'immeuble du comité central du parti. Devant ce bâtiment, les canons soviétiques sont pointés vers les fenêtres du premier étage. Un jeune homme et une jeune fille ont été blessés, tandis que des étudiants scandaient « Dubček, Dubček » et qu'une jeune fille s'approchait au fusil d'un soldat soviétique en lui criant « Va-t'en, tu es dans mon pays, retourne dans le tien ». Mais les soviétiques et leurs alliés ne donnent pas l'impression de vouloir quitter leur position.
À Prague, le manège des blindés est incessant depuis le début de l'après-midi. Des coups de feu sont échangés, quelques maisons brûlent. Ça et là, des groupes de jeunes pragois se forment, aussitôt dispersés par les coups de semonce des militaires soviétiques.
À Moscou, pour la première fois depuis des années, toutes les émissions de radios occidentales sont brouillées. L'agence Stas essaie maintenant de justifier l'intervention des troupes du pacte de Varsovie.
Selon l'agence officielle, c'est à la suite d'un appel à l'aide adressé par un groupe de membres du comité central du Parti communiste tchécoslovaque que les soviétiques ont décidé, en accord avec leurs alliés, de cette intervention.
L'étape suivante, Sabine Dulin, puisque nous consacrons cette émission au lien pérenne du côté de la Russie entre l'impérialisme et le despotisme intérieur, l'époque suivante, c'est l'espoir qui suit la chute du mur. Va-t-on ou non rompre cette sorte de complicité infernale ?
Oui, alors évidemment, c'est sans aucun doute l'espoir et l'horizon du début des années 90 que de renoncer, alors sans aucun doute, à l'autocratie, puisqu'il y a une volonté de mettre en place le début d'une démocratie, certes balbutiante, mais c'est l'idée de retrouver la liberté, en tout cas, ça, c'est très important dans la société de l'ex-Union soviétique. En revanche, la dimension impérialiste est peu présente à ce moment-là. On n'en fait pas véritablement le tour, sauf dans les États qui prennent leur indépendance, comme les États baltes notamment, qui sont vraiment les fers de lance de cette décolonisation au sein de l'Union soviétique, puis ensuite l'Ukraine et les autres. Donc il y a une volonté effectivement de prendre de la distance à l'égard du centre russe.
C'est d'ailleurs le temps de beaucoup d'illusions du côté occidental sur l'évolution prévisible vers une sorte de démocratie universelle. Je pense, par exemple, à l'œuvre de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire.
La fameuse fin de l'histoire.
Progressivement, entre faribole et forfanterie, franchement.
Mais ce qui manque, en fait, dans cette période, c'est une vraie prise de conscience par les Russes eux-mêmes de cette dimension impérialiste. Parce qu'au fond, autant chez les Baltes, chez les Ukrainiens, il va y avoir le développement de l'idée qu'ils ont été dominés par le centre russe, mais en Russie même, autant on a une opposition russe qui veut la liberté et qui veut rompre avec l'absolutisme et l'autocratie et le despotisme, mais en revanche, il y a assez peu de prise de conscience du fait que les Russes ont dominé les autres peuples. Et en fait, c'est aussi parce que les Russes sont continuellement tributaires de cette idée de l'anti-impérialisme qui est celui de l'époque soviétique, et donc les Russes ont été les meilleurs anti-impérialistes. Et donc il n'y a pas véritablement de prise de conscience comme on a pu avoir une prise de conscience en Allemagne, au moment de la défaite, après la fin du nazisme. Là, il y a vraiment un renoncement total au pan-germanisme. Il y a un renoncement total au pan-germanisme.
Le panslavisme, ce n'est pas le même cas.
Le panslavisme peut-être n'est pas encore véritablement rejeté, y compris par l'opposition russe.
Est-ce que ça explique pourquoi un certain nombre de Russes qui ne sont pas favorables à Poutine ne sont pas inquiets à l'époque par une rénovation de l'impérialisme au début de cette ère-là? Ils ne voient pas en lui le tchéquiste qui reste nostalgique de la période antérieure.
Oui, et d'ailleurs, on a de nouveau des reconquêtes impériales, comme par exemple la guerre de Tchétchénie. Donc il y a eu deux guerres de Tchétchénie, c'était déjà dans les années 90. La première guerre de Tchétchénie, c'était déjà à l'époque de Yeltsin. Donc il y a finalement, au cœur même de cette émergence d'une démocratie russe, toujours la question impérialiste qui est posée et qui n'est pas véritablement résolue et qui pèse sans aucun doute aujourd'hui sur l'avenir de la Russie à plus ou moins long terme.
Et c'est particulièrement éclatant et révélateur en 2014, au moment où Vladimir Poutine remet la main sur la Crimée qui avait été attribuée par Khrouchtchev à l'Ukraine. À une époque, on pensait que, comme de toute façon l'Ukraine restait soviétique, ce n'était pas de grandes conséquences. Et voilà ce reportage télévisé tout à fait éclairant sur Poutine revenant à Moscou comme une sorte d'empereur romain après avoir signé le traité de rattachement de l'ancienne province ukrainienne. C'est un extrait du journal télévisé de 20h de France 2, le 18 mars 2014.
La Russie est de retour, crie la foule. 100 000 personnes sur la place Rouge et Vladimir Poutine qui arrive comme un empereur romain au soir d'un triomphe militaire.
La Crimée est comme un bateau qui, après un voyage long et pénible, est enfin rentré dans son port d'origine.
Le temps de chanter l'hymne russe et l'homme fort du Kremlin se retire, plus déterminé que jamais. Quelques heures plus tôt, il avait signé le traité qui attache officiellement, avec effet immédiat, la Crimée à la Russie. Pour rendre ce moment solennel, il a convoqué tout ce que la Russie compte de responsables politiques, économiques et religieux. Une heure de discours très anti-occidental, mais aussi une affirmation : la Russie ne cherchera pas à s'emparer d'autres régions d'Ukraine.
Ne croyez pas à ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine. Nous n'en avons vraiment pas besoin.
Un discours retransmis en temps réel aux foules rassemblées devant des écrans géants de Crimée, devenue officiellement aujourd'hui la 84e région de la Fédération de Russie.
Évidemment, Sabine Dulin, avec le recul, cette affirmation qu'on n'ira pas plus loin en Ukraine est un peu ironique.
Oui, voilà, plus de 10 ans après, on voit à quel point cette première, entre guillemets, victoire de Poutine avec l'annexion de la Crimée, cette idée, toujours avec une grande instrumentalisation de l'histoire, qu'il y a une sorte de retour dans le giron de la patrie. Hein, c'est toujours cette idée de restauration et non pas de conquête. Hein, on ne conquiert pas la Crimée, mais la Crimée revient là où elle devrait être. Ça, c'est toujours ce discours-là. Et ensuite, il va faire le même discours, mais cette fois-ci, pour l'Ukraine orientale, en disant que l'Ukraine orientale étant russophone et ayant toujours appartenu à l'Empire russe depuis 1648, elle doit revenir dans le giron russe. Donc il y a toujours cette idée de la restauration impériale qui justifie ici la reconquête ou même ce qu'on peut appeler la recolonisation de l'Ukraine.
Avec un trépied pour cette politique, à la fois toujours la nostalgie, vous le disiez, de l'antifascisme, de l'anti-impérialisme, le sentiment qu'il y a un développement possible à la russe contre le développement libéral, et puis l'idée des valeurs traditionnelles, fondées notamment sur l'Église, mais pas seulement, contre les débordements de la morale occidentale.
Oui, et puis on voit combien, par exemple, au moment de l'annexion de la Crimée, la conquête de la Crimée assure à Poutine la possibilité de développer son despotisme. Et là, on rejoint la mention du début sur Custine, l'idée que la conquête, évidemment, renforce et consolide le pouvoir despotique et la répression en interne. Et le soutien aux despotes de la part de la population russe qui considère qu'effectivement c'est une grande victoire que la conquête de la Crimée. Alors on espère aujourd'hui qu'à un moment donné, la société russe ne considérera pas qu'une victoire sur l'Ukraine soit une victoire pour elle-même. Parce qu'à un moment donné, si on veut se débarrasser de cet autoritarisme, il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre cet autoritarisme et cette dimension conquérante.
Est-ce qu'on pourrait apercevoir, aux sources de quelque chose comme l'esquisse d'un optimisme, le moment où se dissociera la servitude interne d'un peuple qui, pour l'essentiel, semble, d'après ce qu'on aperçoit, ne pas, sauf ceux qui sont partis à l'étranger, ne pas désapprouver ce qui se passe, et d'autre part, l'impérialisme. Est-ce que vous pouvez apercevoir, j'interroge à l'issue de cette émission consacrée au lien entre impérialisme et despotisme, j'interroge Sabine Dulin, grande spécialiste, pour vous demander si on peut poser quelque espoir d'évolution qui romprait avec cette pérennité que vous avez démontrée avec tant d'efficacité.
Écoutez, je ne suis pas prophète, ça c'est sûr, mais il est incontestable qu'il n'y a pas de victoire russe en Ukraine et que même si il n'y a pas non plus de victoire ukrainienne, c'est malgré tout, même dans la durée du conflit, un début de défaite pour l'Empire russe. Et donc on peut espérer qu'avec cette stagnation de la guerre, il y a un moment donné où il va y avoir peut-être une dissociation de la société à l'égard de cette idée de la conquête impériale qui finalement pèse très lourdement sur ce que pourrait être une identité russe à la fois européenne, démocratique et libérée des fantômes de l'Empire.
Vieux rêve de tant de penseurs et d'observateurs au cours des siècles de la Russie vue de l'Europe.
Et oui.
Acceptons l'augure de cet optimisme léger.
Raisonné, on va dire.
Votre livre, Sabine Dulin, sur lequel nous avons fondé cette conversation, s'intitule « Réflexion sur le despotisme impérial de la Russie », paru chez Payot en 2025, avec toute une série de textes très, très éclairants. Vous aviez publié, il y a 4 ans, également chez Payot, un livre important qui reprenait la notion d'ironie, l'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire, 1853-1991, qui permettra à nos auditrices et à nos auditeurs d'approfondir ce que vous nous avez dit de façon si éclairante. Et puis, je vous avais reçu à l'occasion d'un autre ouvrage qui s'appelait « La frontière épaisse ». Vous étiez beaucoup intéressé aux gardes-frontières. La frontière épaisse, aux origines des politiques soviétiques, c'était aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales en 2014. Je voudrais aussi citer un livre publié en 2023, il y a 2 ans, celui de la grande journaliste éditorialiste du Monde, Sylvie Kaufmann, qui s'appelait « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». Ça concerne évidemment la période qui va de Helsinki jusqu'à les événements ukrainiens que nous savons. Et puisque nous avons beaucoup parlé de mensonges et de dissimulation, je voudrais signaler que le prochain festival de Pessac, consacré aux relations entre l'histoire et le cinéma, la semaine prochaine, sera précisément organisé autour du thème « Secrets et mensonges ». Ceux qui sont dans la région, dans le Bordelais ou même d'ailleurs, auront grand plaisir à s'y rendre. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Vincent Abouchard, avec Sandrine Malon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clarie Monac pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.